Hors des rapports avec Dieu, le plus important et le plus grave, c'est au niveau de la Mahashava. Ensuite du Dibour, ensuite du Mahasé. Alors que, par exemple, dans l'ordre des rapports avec autrui, le plus important, c'est d'abord le Mahasé, ensuite le Dibour, ensuite la Mahashava. Et dans l'ordre des rapports avec soi-même, c'est le troisième ordre, les tiers états. Bon. Alors, en tout cas, revenons au premier groupe, au premier ordre. Il est bien évident que dans ce plan, l'interdiction de l'idolâtrie est au niveau de la Mahashava. Je continue le plan et je reviens après là-dessus. Commandement suivant, l'Otissa, Dibour, le troisième, Chameau, Zachor et Yom HaShabbat. Alors vous voyez que le Shabbat, le L'Otissa et Chameau Lotecha Lashav et l'Otassé Lecha Pesel, c'est le même commandement de reconnaître le vrai Dieu. Et vous voyez comment le Shabbat s'inscrit dans la reconnaissance du Créateur au niveau des actes. Au niveau de la pensée, interdiction de l'idolâtrie. Alors je reviens, ça va, c'est pas trop vite. Je reviens sur ce point, parce que finalement, une idole n'est idole que parce que moi, je la considère comme telle. Parce que autrement, en dehors de ma kavana à moi, de ma mahashava à moi, elle est, grâce à Dieu, une des forces de la nature qui fait son métier. Je pense que c'est clair. C'est moi qui fais d'elle, le ta'asé, okay? C'est moi qui fais d'elle une idole en la pensant comme telle. Ce qui fait la force d'un mythe, c'est ma pensée qui fait vivre le mythe. Hein? Et tant que le mythe il est vivant, mais ça vient des hommes. Hein? Il y a une discussion dans le Midrash entre les idolâtres et les rabbins. Alors les idolâtres disent, mais vous dites que c'est des idoles. Mais c'est le Dieu dont vous parlez qui les a créés. Alors c'est lui qui nous donne la tentation d'idolâtrie. Il nous a créé de ces belles choses, alors nous les adorons. Vous dites qu'il ne faut pas, que c'est très grave. Mais c'est lui qui a, c'est lui le vôtre, parce qu'ils ne le connaissent pas, mais lui le vôtre qui les a créés, qui les détruisent. Alors Dieu répond, à cause de Shotim, Shebarolam, je vais détruire mon monde. Et le soleil c'est important, et aussi la constellation du Bélier, c'est très important. Alors on va détruire tout ça, on va détruire le monde, parce qu'il y a des Akumas, parce qu'il y a des Aodekrobiomazon. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire, bien évidemment, que c'est ma pensée qui fait de l'idole l'idole. Enfin, ma pensée, il faut le dire en hébreu, ma mahashava, mon intention de penser, qui fait de l'idole l'idole. Alors, nous retrouvons maintenant, plus simplement, notre problème. C'est-à-dire, celui qui, au niveau du comportement des actes, se conduit d'après l'alliance du Shabbat, Kehil Chato. Même si, dans sa pensée, il est idolâtre, parce qu'il n'est idolâtre que par sa pensée, on prendra qui ne sait pas trop y pense, mais que son comportement est caché. Alors on lui parle. Voilà, c'est clair? C'est pas plus compliqué. Voilà, c'est une, je veux dire, sans jus de arabe, c'est une Gemara l'Aziza. Parce que je ne sais pas comment traduire ça, mais bon. C'est-à-dire que c'est très précieux. On a sorti de l'enfer des peuples entiers du peuple juif. Il y a beaucoup d'idolâtres par la pensée, mais dans la mesure où ils pratiquent Shabbat vraiment comme il faut, alors on prend acte que. Ils ne savent pas de quoi ils pensent. Il y a une erreur de la pensée. Et on rattache ça à Enoch. Le responsable, c'est Enoch. Et on va voir donc maintenant de quoi il s'agit. Ça va jusque-là? Bon, je reprends là. Tiens, Kolechad Vecha. Kolechad Vecha. Aval Kil Chato. C'est ça? Ah, c'est un Inyan chez Ishayahu Hanavi. Bon, c'est un Inyan chez Ishayahu Hanavi. Ça veut dire, je le traduis, il ne s'agit pas que des juifs, il s'agit de tous dont on parlait Isaïe. Notre Gemara est là-dedans, elle est dans Isaïe. Okay? Et alors, notre contradiction qu'on verra après en troisième point. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un goy qui est sur Mère Shabbat? Je vous donne la réponse tout de suite. Le signe qu'une conversion est réelle, c'est d'abord dans la pratique du Shabbat qu'on va la chercher. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? On a quitté l'idolâtrie, on rentre en Israël. Donc, premièrement, c'est l'alliance de ce problème-là, c'est-à-dire celle du Shabbat. Est-ce que c'est bien clair? Je pense que c'est.
Vous avez dit que la relation avec Dieu, ce qui importe, c'est que le Shabbat est devenu le marathon.
Oui.
Alors, du coup, on ne comprend pas que c'est un marathon. Alors, c'est tout ça qui était idolâtre au niveau de la pensée, mais qui était au niveau du marathon et du Shabbat. En fait, du coup, c'est.
Non, parce que, je veux dire aussi, vous avez raison de poser la question, je veux dire aussi. Dans les mitzvot qui sont appelés mitzvot de Mahashava, il y a aussi les trois niveaux. Il y a Mahashava, Shebe Mahashava, Dibou, Shebe Mahashava, Mahasé, Shebe Mahashava. C'est un problème très vaste, pas du tout compliqué, c'est très simple. Mais il faut faire toute une constellation de catégories en hébreu qui est très différente de nos habitudes de pensée en français. C'est-à-dire, il y a des pensées qui sont des actes. Elles sont bien catégorisées. alors qu'il y a des pensées qui ne sont que des pensées. Et il y a des pensées qui sont formulées, des paroles. Mais il y a de nouveau, pour la parole, il y a aussi Mahashava Shebe Dibur, Dibur Shebe Dibur, Maase Shebe Dibur, etc. Et il y a Mahashava Shebe Maase, Dibur Shebe Maase, Maase Shebe Maase. Dans chaque comportement, il y a toujours tout. Vous comprenez ? L'homme est une unité. Par conséquent, une minute, je vais terminer ça. Par conséquent, ça veut dire que le Shabbat est donné à l'indice Maase. Bien sûr qu'il y a Mahashava, par exemple, Dibur de Shabbat, c'est. On chante ça dans une Zmira. Kol Diburcha, Ken ? Dibre Chol be Shabbat Asur. Ça veut dire le jour du Shabbat, on ne parle pas des choses du Chol. Mais la mitzvah par excellence, c'est le Kiddush. Le Kiddush est une mitzvah du Shabbat, be Dibur, etc. Et je dis donc, le Shabbat est à l'indice Maasé, alors que l'idolâtrie est à l'indice pensée. Bien sûr, dans le comportement de l'idolâtrie, il y a aussi des paroles et des actes, mais tout cela n'existe que par une kavana de pensée. De la même manière, dans le comportement du Shabbat, il y a des paroles et des pensées, mais tout cela n'est que par le comportement des actes. C'est pourquoi la Gemara dit qu'il chate. C'est clair.
Je voudrais simplement vous poser une question en votant de Bekshar Mitra de Shabbat, parce qu'il y a un problème déjà dans la première deux pages de Genèse, que les deux pages répètent deux fois la même chose, une fois c'est la création de Dieu avec l'homme, la deuxième fois c'est l'homme pour l'homme. C'est toujours la question que toujours on demande depuis longtemps, le problème, et c'est en rapport à le septième jour de création pour le jour de Shabbat.
Oui, je vais essayer de vous répondre. Ce n'est pas une parenthèse, c'est vraiment dans le sujet. Mais je peux vous demander, si vous étiez dans vos études précédentes de la semaine.
Non, c'est la première fois.
Ah, c'est la première fois. Bon, donc je comprends votre question. Écoutez, voilà, je vous réponds de façon très globale, parce que c'est très plein dans le détail, ça nous prendrait trop de temps, c'est ceci. La Torah nous donne deux récits, dits de la création, entre guillemets, mais deux récits du Maase Bereshit. Le premier, qui est le premier chapitre, et qui se termine dans les trois versets de Vayechulu Hashamayim Va'aretz, et où l'objet du récit, c'est le monde comme tel, et puis, dans sa place, l'homme. C'est-à-dire, c'est un récit cosmologique, si vous voulez, apparemment, mais avec un remèze que l'homme est le centre, et ça va se déployer dans le deuxième récit. Le remèze est le suivant, si je me souviens bien des nombres, sinon vous m'aiderez, c'est que l'allusion à la création de l'homme se fait au verset 26. C'est-à-dire, tout le récit, le nom de Dieu comme créateur, c'est Elohim. Okay? Et ce n'est que dans le deuxième récit que le nom de Hachem Elohim va s'introduire. Et le nom de Elohim est donné pour le créateur, non compte non tenu de l'homme. C'est Midat Adin. Okay? Et il y a, si je me souviens bien, c'est où 32 ou 26, mais, 32 fois le mot Elohim dans ce premier chapitre, et la 26e fois qu'il y a le mot Elohim, c'est Vayomer Elohim Naase Adam. Mais le remède, c'est qu'au verset 26. 26 étant la gematria du Shema Vaya. C'est-à-dire, quand le récit s'occupe de l'homme, alors Shema Vaya apparaît en filigrane. Le deuxième récit, l'objet du récit, c'est l'homme. Tout se passe comme si l'homme devient le gros plan, et le monde est la périphérie extérieure. En réalité, c'est si vous voulez, le même enseignement, mais intentionnellement donné dans deux perspectives très différentes. Le premier, la Midat Hadin, récit cosmologique, si l'homme n'était qu'à sa place, alors c'est Rimma Vetola Hashem Davar, Adam ou Hema Toshi Hashem. C'est un peu la vision philosophique du monde, okay? Impersonnelle.
C'est pas seulement ça, je crois que c'est la question fondamentale de la religion juive aussi, c'est dès les premières pages de Genèse, c'est la différence entre la création de l'homme pour l'homme avec les dieux, les différents, puis la deuxième page, exactement 13 psaumes aux premières et 13 psaumes aux deuxième page, qui appelle la même chose en différent avec la création.
Ok, vous l'avez terminé de dire, que j'ai mis.
מפסוקים א' עד 13 בפרק ראשון, מפסוקים י"ג עד האחרון בפרק השני, הבריאה חוזרת על עצמה אותו דבר. אבל אם הבדל אחד, שהבריאה הראשונה מדברת על האדם בהקשר אל השם, והבריאה השנייה מדברת על האדם בהקשר אל האדם. כשהאלוהים הוא לא הגורם החשוב פה. זאת אומרת שהאלוהים הוא חשוב, אבל הגורם הוא האדם, כלומר האדם אל האדם. וזה גם הבסיס של הדת היהודית, זאת אומרת, מה שיוצא מזה לאחר כך, ששני הדברים, האדם בהקשר אל אלוהיו, והאדם בהקשר אל האדם.
אתה צודק, אבל עם הבדל אחד.
זה גם בהקשר אל השבת, שאני מדבר על אחר כך,
אבל עם הבדל אחד, זה לא מדובר בקשר לאדם אל האלוקים, אלא בקשר לאדם לטבע, לעולם. Ah, c'est l'autre d'abord. Je ne sais pas si tu as appris ça chez Kasuto, mais...
Chez Kasuto, j'ai appris ça à l'école.
Oui, bon. Alors, c'est ton professeur. Non, mais voilà ce que je veux dire. Toute l'analyse est exacte, sauf une chose importante. Dans le premier récit, le gros plan, c'est pas Dieu, c'est le monde. Dans le deuxième récit, le gros plan, c'est plus le monde, c'est l'homme. Et tu as raison de dire, là c'est tout à fait exact, que la Torah veut nous enseigner que l'important, c'est l'homme, c'est pas le monde. C'est pourquoi Kol ve ele mosif al rishonim ve ele posel et al rishonim. Je vais vous dire. Ah, non, chier. Où est-ce que nous étions? Oui. Oui, mais j'ai expliqué, je pense.
Oui, mais aujourd'hui, vous dites, celui qui pense, qui croit aux idoles, du moment qu'il respecte cela, on le considère comme...
Oui, alors premièrement, il s'agit d'un juif. Premièrement, il s'agit d'un juif, dans la Gemara. Et ensuite, la question m'a été posée, et quoi avec les goïms? Il ne s'agit pas de n'importe quel goïm, des guérim. Ce que Isaïe appelait les bnei hanechar, les fils de l'étranger qui viennent en Israël. C'est pourquoi j'ai dit là, l'épreuve de l'authenticité du Dior est d'abord au niveau du Shabbat. Okay? Pourquoi? Parce que c'est à l'indice que vraiment l'idolâtrie a été rejetée. Okay? Voilà le point. Hier, vous n'étiez pas?
Oui.
Et bon, alors je vais essayer. Bon, on essaiera au moins de finir ce premier texte. Dommage pour les autres, mais ça sera pour une autre éternité. Donc, je vais reprendre ça parce que c'est important. Bien. Voilà le problème. Nous avons une Gemara qui dit « Goy se shabbat rayamita ». Un goy qui arrête de travailler est passible de mort. C'est comme ça qu'il faut d'abord traduire pour bien comprendre très, très directement. Parce que, qu'est-ce que c'est un goy qui pratique le shabbat? Vous avez vu des goyim comme ça? Disons, « Goy se shabbat mi melachto rayamita ». On ne parle pas des guérim. Des guérim ou ceux même qui, n'étant pas encore « guert sedek » mais « guert toshav », s'initient à la pratique du shabbat. On ne parle pas de ce cas-là. La Gemara parle du « goy ben noach » chez shabbat « chayav mita ». Et ça veut dire donc un goy qui arrête son travail, qui se prend un jour de repos hebdomadaire, qui se prend un jour de loisir, et c'est de ça qu'il s'agit, est passible de mort. C'est passible de mort. On va le condamner à mort parce qu'il se repose un jour par semaine. Après tout, c'est quand même nous qui avons donné les onglumes au monde. C'est le congé payé, ça commence pas là. Mais comment dis-je? Vous voyez, on l'a sorti de quelque part. Hein. Ça veut dire ceci. Si nous étudions, je ne reviens pas dans les détails, mais si nous étudions le problème difficile de l'occupation des loisirs, alors on s'aperçoit que lorsqu'on n'est pas occupé à travailler, alors là je veux quand même reprendre votre question en même temps votre question d'hier. Oui, c'est vous qui avez dit cela, que le travail aussi c'est la faute. Vous comprenez? C'est bien vous. Oui. Et je ne parlais pas du travail dans le circuit économique. Je parlais d'être occupé d'être occupé. Et quand on est occupé, on n'a pas le temps de faire une faute. Mais il est bien évident que la relation économique de l'exploitation du travail fait rentrer le travail dans le circuit de la faute. C'est plus clair maintenant. Et donc, quelqu'un qui n'a pas accepté la loi morale et qui arrête de travailler, se condamne au risque d'avoir à passer son temps à faire des fautes. Et par conséquent, se condamne lui-même à risquer d'être passible de mort. C'est ça que ça veut dire. Et j'avais ajouté tout de suite que, bien entendu, dans l'évolution de l'histoire des sociétés, il y a des sociétés, ou disons des congrégations dans les sociétés, qui n'ont pas accepté la Torah, donc au niveau Shabbat, mais qui ont quand même, dans leurs jours de loisirs, une consécration à la piété, ou à la moralité, ou aux lectures pieuses, ou tout ce que vous voudrez, ou à la promenade familiale, et donc il y a moins de risques, ou il n'y a pas de risques. C'est clair. Alors revenons donc à notre sujet. Je crois qu'on a quand même élucidé la première difficulté de base, et j'aborde le raisonnement. Je résume pour la première difficulté de base. L'essentiel de l'idolâtrie est dans la marche à Shabbat, comme vous avez dit. Okay? L'essentiel du Shabbat est dans le Maas. Et par conséquent, Kol HaMeshamer, en termes bibliques, Kol Shomer Shabbat, Kol HaMeshamer Shabbat Kehilchato, אף על פי שעובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו, אומרים פרדון, שנאמר, שומר שבת, מחלל לו. Alors là, nous abordons le raisonnement de justification du lien entre la thèse et le verset, le machmir. Comment on a appris qu'il chato de mechalelo? Parce que, premièrement, et dans tous les cas, le mechalelo est inutile. Dans le verset d'Isaïe, shomer shabbat, mazé shomer shabbat mechalelo, zé yétour la shok. C'est un mot de trop, apparemment. Ken, vous suivez le raisonnement? Le verset aurait suffi de dire kol shomer shabbat. Bien sûr que celui qui est shomer shabbat, c'est en vue de ne pas le profaner. Okay. Si le verset a dit Shomer Shabbat Mechalelo, ça veut dire avec une vigilance, comment on dit en français, scrupule, je cherche un autre terme,
minutie.
Attention à la minutie. Comment dire, oui, minutie, d'accord, mais attention à la scrupulite. Il y a un terme qui m'échappe, mais je voudrais bien le retrouver. Avec méticulosité, attention à la méticulosité. Mais. Et je vous décrirai l'attitude, je trouverai le mot. C'est-à-dire, prendre garde à bien réussir ce qu'on fait. Comment dit-on cela? Plus que ça. Mais je crois que vous avez compris, mais c'est plus que ça. Vigilance. Avec vigilance. Avec vigilance de ne pas risquer vraiment de profaner ce que l'on fait. Ken, Shomer Shabbat, Mechalel. C'est ça qui veut dire dans le langage de la Gemara, Keilchat. Bon, et là nous avons ici un problème qui vaut pour tous les mitzvot. Mitzvah Keilchata. Par exemple, nous avons à la fin de la Vérage Pessah, Hasal Sidur Pessah Keilchato. Parce qu'il n'est pas Keilchato, on fait autre chose. Ça veut dire que nous avons un mode d'emploi. Et c'est le mode d'emploi qui garantit l'authenticité. À manier avec précaution, si vous voulez. Dans les tartemachma, dans les 208 lettres. Ça veut dire, et ça c'est pour tous les mitzvot. La Torah nous donne un projet général au niveau de la Torah Shebichtav. La Torah Shebichtav nous dit comment faire ce projet général. C'est clair? Toute mitzvah au niveau de la Torah Shebichtav, c'est un projet. Mais le vrai problème, tout le monde veut le projet. Le vrai problème, c'est les moyens réels pour que le but soit atteint authentiquement. C'est-à-dire, un peu, si vous voulez, cette expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les bonnes intentions, c'est très bien. A priori, tout le monde est de bonnes intentions. Mais voilà, et comment ça se fait que ça ne marche pas? C'est parce que ce qui ne marche pas, c'est la halakha. C'est ça qui marche. Halikha, halakha. C'est ça qui fait marcher, si j'ose dire. Par exemple, l'exemple que je cite habituellement parce qu'il est le plus suggestif, la Torah dit, Rabbi Akiva, l'essentiel de la Torah c'est, tout le monde est d'accord, et pourquoi pas? Comme dirait M. Levinas, qu'il a dit il y a une trentaine d'années déjà, dans un article célèbre, que vous n'avez pas lu, c'est tombé dans le domaine public. Vous vous rappelez de ça? C'est tombé dans le domaine public. Heureusement, grâce à Dieu. Ben, tout le monde est d'accord là-dessus. Le vrai problème c'est, mais comment faire pour réussir cela? Ça, on a besoin d'un Shulchan Aruch. Ça y est, c'est clair? C'est ça qui est Ilchato. L'authenticité de la conduite est garantie au niveau du Maasé. Oui, d'abord, mademoiselle Gadron. Oui? Plus fort. Théoriquement. Mais concrètement, comment il faut faire?
Alors, concrètement, comme c'est possible d'une façon très précise, les différentes individualités ne sont pas authentiques au même niveau.
Bon, alors quand on a un problème à ce niveau, il faut faire une consultation, comme on dit, et demander à un spécialiste. Non, non, mais c'est vrai, c'est la réponse. Vous comprenez? C'est-à-dire, effectivement, il y a un danger là, c'est le fait d'uniformiser un point tel que. Et s'il y a un problème, il faut faire une consultation. Ça s'appelle Sheila. Ken? Je voulais
poser une question. Moi aussi, même du coup, parce que tu as parlé des temps contemporains aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'il y a beaucoup de choses par hasard, que c'est marqué beaucoup en rapport du travail. C'est-à-dire, l'otasel chakol avoda, et le shabbat tabé en shvi, vata ou bemdecha, vekola shabbat, vekha. מה עושים היום כשרוב הדברים האלה לא קשורים לעבודה? כי אם אתה מדליק חשמל, זה כבר לא חשמל, וזה לא עושה עבודה, ואם אתה מסיע את המכונית, זה לא הבהמה שעובדת. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui que la majorité des choses qu'on considère dans la Bible en rapport de Shabbat sont pas valables aujourd'hui.
Voilà, ça nous avons étudié hier avant-hier. C'est vrai, j'essaye de simplifier parce que c'est vaste votre question. Il faut bien savoir que la notion de travail qui est interdite au Shabbat, c'est pas stam fatigue ou effort ou quelque chose qui dans notre mentalité technique contemporaine est considéré ou pas comme ce qui s'appellerait travail, effort de fatigue. Par exemple, l'idée que tourner un bouton électrique, aujourd'hui on presse, je ne sais pas comment, bon, un bouton, ça c'est travail, bon, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, nous ne sommes plus dans l'Antiquité primitive, où il fallait le silex et frotter les vapeurs, bon, on fait bien attention à cela. Je vous ai en particulier hier, je te dis d'abord la réponse globale, il y a toute une jurisprudence de ça. C'est les chérifs de chevaux sont contemporains. Il y a même des instituts très spécialisés où les rabbins sont aussi des ingénieurs, et parfois d'ailleurs où les ingénieurs sont aussi des rabbins. Et il y a en particulier, comme tu le sais, en Israël, beaucoup d'instituts de ce genre où les chérifs de chevaux se posent tous les jours. Voilà. Et en particulier, le rabbin Ovadia Yosef. En personne, est un des grands spécialistes de ces questions-là en particulier, et il édite pratiquement chaque année les mises au point. Et quand je dis ingénieur, ce n'est pas seulement des ingénieurs, il y a des savants de différentes catégories, pour arriver à diagnostiquer si le comportement technique dont il est parlé aujourd'hui entre ou n'entre pas dans la catégorie appelée Melacha de Avodah de Shabbat par la Maseret Shabbat, qui est vraiment cette Maseret qui est une science extraordinaire. Donc je vais simplement isoler un ou deux des principes, et tel que le professeur Baruch lui-même nous l'avait enseigné quand nous étions nous jeunes étudiants à Paris, il y a déjà, je ne dis pas quand. Dis ceci. Et c'est rattaché d'abord à la source, les Lamtet Melachot, c'est les 39 travaux, c'est rattaché à tous les comportements qui se définissent dans les catégories de comportements nécessaires à la construction du Bayit. Bétamidage. Vous connaissez cette liaison déjà. Et 39, parce qu'il y a trois grandes catégories, tous les comportements de travaux qui ont pour objet de faire obtenir la nourriture, depuis labourer, semer, jusqu'à tous ces gestes-là. Deuxièmement, tout ce pour avoir les vêtements, et donc aussi repasser. Et puis, troisièmement, construire le bâtiment. Et donc, toute conduite qui nécessite un geste analogue ou identique à ces travaux de base est appelé travail dans le sens melacha en hébreu pour Shabbat. L'histoire de la fatigue, c'est un parmi les commandements du Shabbat, qu'il ne faut pas se fatiguer le Shabbat d'autre part, et qu'il y a des subdivisions aussi. C'est bien clair. Ça veut dire, et d'autre part, et en plus, et aussi, c'est interdit de se fatiguer. Mais, et donc, il y a toute une problématique. Donne un petit exemple, si vous voulez, pour me relier à votre question. Je vous donnerai ma réponse naïve, mais dans tous les cas, il faut voir son spécialiste habituel. Comment dire, voilà, il est donc interdit de se fatiguer, mais pour des raisons de halakha, il est interdit de prendre l'ascenseur le Shabbat. Bon, je sais qu'il y a des entreprises de bâtiments qui ont inventé des bâtiments où il y a des ascenseurs automatiques pour chômer Shabbat. Oui, ça existe. Compliqué, mais ça existe. En tout cas, en Israël, il y a moins de Marit Haïn. Parce que c'est connu, cet immeuble, il est pour Meshuge Froum. Mais, donc, contradiction. Si j'habite un 15e étage, alors c'est interdit de se fatiguer, premièrement. Monter 15 étages, c'est fatigant le Shabbat, qu'on le veuille ou qu'on le veuille. Deuxièmement, donc on a violé le Shabbat. Le problème est clair. Vous voyez pourquoi il faut faire une Sheila dans une expertise. Deuxièmement, c'est interdit. Pour des raisons de halakha claires, de pousser sur le bouton. C'est pas fatigue, c'est interdit de faire marcher cette machine-là. Ma réponse, elle est très naïve. Qu'est-ce qu'un juif va faire d'habiter un 15e? Ça, c'est une réponse possible. Non, je crois qu'il y a une espèce de perspective qui s'appelle aujourd'hui. Les écologistes, machin ou casé. Non, c'est très sérieux ce que je dis là. Mais, attendez, oui, j'ai pas servi. Écoutez, c'est très sérieux. C'est-à-dire que le monde est en train de se donner, c'est sa pente de progrès et de développement. Et le monde est en train de devenir une histoire de fou au niveau technique. Très compliqué. Imaginez un immeuble moderne de standing X, et puis si quelque part, je ne sais pas, il manque un petit boulon, la vie est stoppée. On va vers quelque chose de compliqué. Bon. Et donc, la réponse des spécialistes de l'Halakha pour des histoires de fous a l'air d'histoires de fous parfois. C'est ça que je voulais éclairer. Mais c'est parce que la question est une histoire de fous. Parce que Stam, un juif normal, même un jour de semaine, n'habite pas un 15e étage.
Les gens qui ont trouvé le Shabbat,
c'était dans le sens de ma réponse. Très bien. Bien, alors nous avançons dans le raisonnement, oui. Donc, alors nous avançons dans le raisonnement, je voulais éclairer le lien entre... D'abord entre Teil Chato et Shover Shabbat Mechalelo. Maintenant, il nous reste cette deuxième question d'éclairer la Gemara elle-même dans le fond. Afilou, Orer Avodazara, Kedop Enosh. Il me reste juste 10 minutes, donc on va s'arrêter là, mais je voudrais au moins arriver à éclairer ce point. Là, je vous cite le Maharsha que j'ai voulu lire à la lettre, mais je vous cite dans l'essentiel, et c'est ceci. C'est que, même si le texte d'Isaïe avait voulu dire ce scrupule, cette vigilance, et donc ajouter « mechalelo », le texte aurait dû dire « mechaleleha » au féminin, comme cela est dans Exode 30, comme diraient les spécialistes, lorsque la Torah prévoit celui qui profanerait le Shabbat. Le Shabbat est là au féminin. On dit dire « Shomer Shabbat Mechaleleha » et non pas « Mechalelo ». Par conséquent, il y a de nouveau un Yetur Lachon. C'est-à-dire, maintenant, on se demande pourquoi ce n'est pas « Mechaleleha ». On a compris qu'il voulait dire « Qu'il Chato ». Mais pourquoi ce n'est pas « Mechaleleha » mais c'est « Mechalelo ». Alors le Drash, c'est qu'il y a ici une intention bien précise. Il faut lire non pas « Mechalelo » mais avec les mêmes lettres « Mahul Lo ». Sera pardonné à lui. Mohalin lo, dans la chambre de la Gemara. C'est clair? On ne dit pas mechalelo, mais mahol, en réalité mahul, lo. La relation avec Enoch, c'est quoi? Eh bien, c'est là que nous allons prendre le dernier verset pour ce soir. Je vous donne la référence. C'est à la naissance d'Enoch, le verset 26 du chapitre 4 de la Genèse, de Bereshit. Vous savez qu'après le meurtre de Abel par Caïn, pendant 120 ans, il y a eu comme seule lignée la lignée de Caïn. Elle a tous les sursis qu'elle a eu pendant ces 120 ans. Et puis, en fin de compte, Dieu suscite une autre lignée qui est la lignée de Chet. Et la lignée de Chet va avoir pour vocation de se développer dans la Bechina, dans le genre de Mamlechet Kohanim Begol Kadosh, pour sauver l'humanité de Caïn. C'est clair jusque-là? Et tout de suite, ce verset nous dit « Ulchet gamhu yulat ben »« Achet lui aussi fut enfanté un fils »« Va ykret shemo Enosh » et il nomma son nom Enosh « Az huchal likro beshem Hashem » Alors on a commencé à invoquer le nom de Hashem. Alors, vous voyez, cette lignée est d'une certaine manière schématise beaucoup sacerdotale, alors que la lignée de Caïn est historique. L'histoire, c'est l'histoire de l'humanité de Caïn. La vocation de type Israël préfiguré, si vous voulez, c'est la lignée de Chet. Et sur ce point, la traduction de la fin du verset 26, Azmuchal, alors on a commencé. La Gemara et Rashi, que vous verrez vous-même sur le verset dans le Chumash, Rashi dit, Huchal, c'est pas le lachon hachel, commencer, c'est le lachon chulim, profané. Et il faut lire, Az Huchal, alors fut profané, fut commencé à profaner le nom de Dieu. Donc, ça veut dire que l'idolâtrie commence à Enoch. Et dans quel sens? Dans le sens suivant. C'est que, bon là je paraphrase, mais je vous signale que vous avez un chapitre entier dans le Nefesh Chaim, qui est le grand petit livre, mais le grand livre du Rav Chaim de Volodjin, qui est le grand disciple du Gaon de Vilna, sur cette, ce que c'est que cette idolâtrie. Je crois que c'est le chapitre 3, si je me souviens bien, qui est, qu'est-ce que c'est que cette idolâtrie de Enoch. Je l'explique très schématiquement et nous conclurons sur une conclusion. C'est ceci. C'est que Enoch se trouve être ce type d'homme chargé de la rédemption de la lignée de Caïn, de faire tchouva à la lignée de Caïn. Mais on a jugé, c'est l'objet de la lignée de Seth. Hein. Dans cette lignée-là, on a jugé que la chute était trop chute dans la lignée de Caïn pour leur dire la vérité tout de suite, leur parler du vrai Dieu tout de suite. On a inventé les idolâtries de médiation. Donc, c'est clair. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de paraphraser. Et par conséquent, il y a une sorte de mépris de l'humanité qui est indéniable et qui est catastrophique comme cause de la suite et de l'échec de la lignée de Seth elle-même qui aboutira, malgré toutes ses tentatives et ses propres sursis, à l'échec du déluge, seul rescapé, Noah. Seul rescapé, Noé, les autres noyés. Mais, je voudrais terminer l'analyse. Donc, il faut bien corriger cela. Rashi nous fera lire. Alors, on a commencé à donner le nom de Dieu aux hommes et aux plantes. Hein? Nous dirons aux hommes et au blé, pour ne pas faire d'allusion très précise. Voilà à peu près de quoi il s'agit. C'est là que Enoch invente les idolâtries de médiation en vue de sauver l'humanité de Caïn. Torah Moshé, c'est trop haut pour eux, on va leur faire Torah d'Enoch. Vous voyez à peu près le problème. C'est-à-dire Enoch est l'inventeur de l'idolâtrie qu'il voulait cacher. C'était dans une bonne intention. Et donc, pour revenir au texte de la Gemara, ce sera ma conclusion provisoire après vos dernières questions rapides, c'est ceci. Il ne s'agit que de celui qui revêt Avodah Zarah qui est d'or Enoch. Et pas du Ovel Avodah Zarah grossier, du Ovel Avodah Zarah, je dirais, qui arrive en fin de compte au panthéisme, celui-là non. Mais le Ovel Avodah Zarah Kedor Enoch, oui. La restriction de la Gemara est maintenant importante, c'est clair. Bon, oui, quelles sont vos questions? Je suis vraiment désolé parce que j'ai encore une réunion tout de suite, mais vous pouvez prendre 5 minutes très rapidement.
Mais c'est Caïn même, c'est en disant, Achomer Achim Anokhi, donc c'était avant Enoch.
Quel rapport?
Non, parce que si on dit sur Enoch, il est prévenu, il est mal, du
coup, mais en quoi, dans Achomer Achim Anokhi, y a-t-il idolâtrie?
Non, il n'y a pas d'idolâtrie, mais il y a un
cours. Il y a un interlocuteur. J'entends pas.
Il y a un interlocuteur.
Oui. Bon, je dirais que Caïn n'est pas idolâtre, il est assassin, c'est machu acher. Il est, c'est plus grave d'ailleurs, mais nous parlons ici, comment est apparue l'idolâtrie au niveau de Enoch, et quel genre d'idolâtrie est-ce? C'est pourquoi je ne vois pas le rapport avec votre question.
Non, mais parce qu'on dit que c'est Enoch qui est Bouchal, c'est pas le commencement.
De l'idolâtrie.
Oui, mais l'idolâtrie, enfin aussi de la relation avec Dieu.
Mais cette relation avec Dieu d'Enoch est idolâtre, puisqu'il s'institue comme médiateur. Et il dit ceci en prenant une plante, hein, qui donne la nourriture. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Bon. Ken?
Comment tu comprends une histoire du Nouveau Testament? Est-ce que c'est un idolâtre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une histoire?
Attendez, la première partie de la question, je comprends, mais la deuxième, c'est quoi?
Ah, parce que c'est, on vous a expliqué dernièrement,
il a voulu faire un exemple. Vous savez que j'identifie une minute, qui ont
Dans une discussion qu'on avait eue à la synagogue de un livre particulier d'ailleurs sur le commentaire classique, aussi classique que Rashi, que le Mekoshé Shoftim était Tzelophrade.
Ah, j'ai compris ce que vous voulez dire. Non, la Torah a pris Tzelophrade comme exemple pour enseigner ce qu'elle enseigne là. Hein? C'est pas que Tzelophrade, en violant le Shabbat, voulait donner un exemple. C'est ça, c'est clair.
Ça, j'ai pas très bien compris.
Ah, mais c'est ça qu'on a dû vous dire, si c'est classique. Parce que si c'est pas classique, je sais pas. Oui. De la même manière que pour les Bnot Tzelophrade, la Mitzvah qui est enseignée là, on l'a mis au nom des Bnot Tzelophrade pour les prendre en exemple pour enseigner cette Mitzvah. Mais dans tous les cas, la Torah aurait enseigné la Mitzvah en plus. Attendez, attendez, maintenant, posez votre question. Quelle est votre question?
Non, en fait, est-ce qu'on peut concilier les deux?
La faute de Tzelophrade, c'est d'avoir violé le Shabbat.
Mais est-ce que son fait de violer le Shabbat est une violation?
Oui, par définition. Violer le Shabbat, surtout dans cette génération-là, c'est refuser la loi du Créateur, qui c'est-à-dire la Torah. C'est revenir à l'idolâtre. Donc, j'invente sur place un midrash. Qu'est-ce qu'il faisait en étant Mekoshesh ici? Il se préparait les bois de son idole. Pourquoi des bois?
Une question sur l'ensemble du séminaire consacré au Shabbat. Le chambre nettoyé à Shabbos, la sauce à Shabbos, pour faire le Shabbat. En fin de compte, il y a peut-être une ambiguïté apparente là-dedans, parce que le Shabbat n'est pas nous qui décidons quand il est. La liberté. Le but d'Israël est, en reconnaissant le Shabbat comme tel, de reconnaître que le monde est éparpillé pour cette unité. Mais la différence qu'il y a entre les fêtes et le Shabbat, c'est que Israël est responsable de la décision des fêtes. À Metadesh, un Shabbat de Israël, à Tmanim, si le Satan que Saint-Léon n'a pas décidé que c'est Rosh Hashanah ou Yom Kippour, ce n'est pas. Pour le Shabbat, quand on dit l'arsot de Shabbat, est-ce que ça ne veut pas dire simplement pour faire du Shabbat au niveau de l'Obliga, au niveau de la Asiya? Parce que faire Shabbat, il y a là quelque chose qui est un petit peu...
D'accord, j'ai compris. Je répondrai en
site.
J'ai compris. Je répondrai. Vous avez compris la question?
Oui.
C'est-à-dire que nous allons expliquer cela de la manière suivante. Le fait qu'Israël pratique le Shabbat garantit les lois de la nature, garantit que le monde est dans l'état de Shabbat. La rassaut est à Shabbat, de faire que le monde soit dans l'état de Shabbat. Vous vous rappelez de cela? Bon, la question est, mais oui, mais que cette chose-là ne dépend pas du Sanhedrin, de la décision de l'homme, ça c'est les fêtes qui, où l'homme fixe, moraise, hein? Ça, c'est Dieu qui le fait, que c'est Shabbat. Et notre comportement n'a rien à faire, là. Je vais vous répondre d'après un autre verset des prophètes, « Imlo beriti yomam valayla, chukot shamaim vares lo santi » et dans toutes les dimensions qu'il y a dans ce thème, c'est que le comportement de l'homme, lorsque les misotes sont appelés berit, garantissent chukot shamaim vares. Imlo beriti yomam valayla, ven berit la mila, ven berit la shabbat, vechen hala, ou baikar, en berit la limut torah, berit la torah, ça veut dire que les misotes qui sont berit garantissent que le tohu vabohu originel, qui est là sous-jacent, est contenu, et il y a un ordre virtuel, mais c'est l'alliance qui garantit que le tohu vabohu ne ressurgit pas. Et là, nous avons, c'est clair. Hein? Et là, c'est la différence entre Asiya et Bria. Au niveau Bria, c'est tohu vabohu. Et le comportement de l'homme permet que la Yetzira soit garantie dans la Asiya. Là, nous abordons une catégorie de la foi la plus fondamentale. C'est ça qu'il faut croire. Que plus il y a de moralité, plus les fleurs sont belles, pour dire ça poétiquement. Plus on verse le sang, moins on mange cachère, plus le sang est versé. Ça, c'est M. Corbet qui nous l'avait enseigné il y a 35 ans. Et donc, c'est ça. C'est ça en quoi il faut croire. C'est ça la foi juive. Plus il y a de moralité, plus les lois de la nature sont vraies. Il faut être fou pour croire ça. Pas du tout. Il faut être hébreu. Bon, alors, nous, ou juifs, hébreux. Bon, ça se comprend pas pour les gens. Et alors, bon, ça c'est entre nous. Donc, alors, en tout cas, pour ce soir, on n'a pas terminé. On retrouvera peut-être ce sujet dans une autre. Oui, mais non, je veux ajouter avant d'oublier qu'il y a encore un cours de Sanhedrin demain matin. Hein.
Vous avez parlé de l'exilé, alors il y a
l'idée d'Israël,
le
prophète,
c'est quoi?
Le golé, c'est l'exilé. Golé, la gola. Et les juifs de l'exil sont dans la gola.
Et
Mais ce n'est pas eux, les Nitri Israël. Les Kabetz Nitri Israël, c'est Moshe Ben David. Nous, nous sommes Shivatir. Melacha. Melacha, avec l'âme. Melacha, l'activité. Soyez gentils, rapides.
Du temps du royaume de l'Israël. Apparemment, il y a ce propos d'après un rapport que vous avez dit, au propos de Dieu qui est caché dans le caché, et par rapport à l'Israël qui est caché, mais qui ne savait pas qu'il est caché.
Oui. Ces hommes-là, qui sont les Nitrés Israël, si déjà les Juifs de l'exil sont malheureux, parce que c'est l'enfer, ceux-là sont encore plus à peine. Vous comprenez ? C'est ça, je crois que je vous ai répondu. Et vraiment, ils sont dans le guérison de Tartarin.
Alors, quand on dit que...
Parce qu'ils sont Israël, mais pas déguisés, traduits en autre chose. Et alors ça, c'est... faut le supporter. Vous le faites.
Alors, la petite question que je vais demander, c'est le rapport de prier. Parce que pas tous les mondes entiers, dans la prière, on dit le Shabbat de Yerushalayim.
Okay.
Une chose que j'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui, que c'est une paradoxe avec tout le peuple juif dans le monde entier, qu'on a les Jérusalem, personne ne va là-bas.
Alors, je vais vous dire.
Parce qu'on a les Jérusalem, pourquoi tout le monde priait et vit dehors d'Israël et dit le Shana Abad et Yerushalayim, à la place de prendre l'avion, on partit là-bas.
Mais lui, à sa manière, et on est là. Non, je vous explique. Et vous avez raison, mais ce n'est pas une question qui me concerne. Moi, je viens de Jérusalem.
Pour la cousin à son
fou. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, alors, à demain matin pour ceux qui suivent. C'est...
D'accord. Si tu ne vois pas ce que tu as à mettre, d'accord.